sais, on change d'avis toutes les 2 heures sur la Chine. Parce que il y a des choses magnifiques, des choses abominables. Il y a des moments où on se prend à croire que ce pays est en train de changer en s'ouvrant. Il y a des moments où on désespère de le voir changer en se fermant. Et c'est l'immensité chinoise, l'ampleur, le rythme font que vous avez autant de raisons d'être optimiste que des raisons d'être pessimiste. Et en même temps, c'est bon, la première constatation qui est une évidence, c'est que ça bouge à une vitesse phénoménale, parfois sans se demander où ça va, mais ça y va. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de la Chine d'aujourd'hui, c'est d'abord la vitesse.
Alors, ça vous inspire quoi?
Bah, l'admiration et la crainte. L'admiration, parce que quand même, on est ici dans un vieux pays qui a réussi à secouer un immobilisme et des contradictions terribles qui avaient été apportées à la fois par son histoire et dans la dernière période par toutes les outrances du maoïsme. La révolution culturelle, c'est quand même pas si vieux. Toute personne qui a 50 ans en Chine aujourd'hui porte sur les épaules le poids de tout ce qui s'est passé dans l'histoire récente. Donc, et malgré ça, y a ici un optimisme, une sorte de dynamisme qui fait que on veut sortir de cette fatalité de 150 ans de catastrophe et on veut croire à un avenir radieux, enfin, véritablement radieux et prospère. Et de fait, il y a plusieurs dizaines de millions de personnes aujourd'hui qui sont sorties de cette pauvreté, de ce cycle de la misère et qui sont dans une sorte de classe moyenne émergente et de voire nouveaux riches et qui vivent plus que bien, parfois dans un luxe un peu choquant. Je disais donc d'un côté une sorte d'optimisme, de l'autre côté la crainte parce que tout ça se fait dans des conditions qui ne respectent pas vraiment l'homme. Et je ne parle pas seulement des droits de l'homme tels qu'on les imagine, liberté politique, liberté d'expression, c'est évident et on le sait sur la Chine. Je parle du respect de la personne humaine dans le travail, dans la vie, dans les rapports entre les autorités et les citoyens, entre les citoyens entre eux. La Chine, peut-être par sa taille, par l'ampleur de sa population, 1,3 milliard, peut-être par ses traditions, avance comme un rouleau compresseur. C'est-à-dire que si on a la chance d'être sur le siège, c'est bon. Si on a la malchance d'être devant le rouleau compresseur, on a toutes les chances de se faire écraser. Et c'est un peu ce qui se passe pour beaucoup de gens qui sont aujourd'hui les laissés pour compte du miracle économique. Je pense aux mineurs, par exemple, de charbon. La Chine a le record du monde du nombre d'accidents du travail. Et ces accidents du travail ne doivent rien à la fatalité. Ils doivent au fait que pour alimenter les 9,5% de croissance, il faut beaucoup d'énergie et il faut pousser l'exploitation minière au-delà du raisonnable, au-delà de toutes les normes de sécurité. Et donc à chaque accident, on a une enquête qui montre que les règles n'étaient pas respectées, que les autorités locales étaient corrompues, etc., etc. Et vous avez un bel éditorial dans la presse pour dire il faut veiller à la sécurité minière, il faut protéger les mineurs, etc., etc. Jusqu'à l'accident suivant où on recommencera. Et donc cette absence d'humanité, elle se reflète dans plein à plein de niveaux. La prise en compte de l'environnement, par exemple, est encore extrêmement faible. C'est un progrès quand même, hein, par rapport à il y a 5 ans où ça n'existait absolument pas. Aujourd'hui, on sent que sous la pression de la nécessité, parce que la Chine a les villes les plus polluées du monde, parce que elle a une vraie crise de l'énergie, donc elle commence à chercher des solutions du côté des énergies renouvelables. Elle se rend bien compte aussi de l'impact sur son système de santé, etc. Donc il y a des raisons objectives, mais elle fait pas le dixième de ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour prendre en compte cette dimension-là. Donc il y a tout un tas de points noirs dans la croissance chinoise qui font que c'est un peu désespérant aussi.
Est-ce que vous pensez qu'un journaliste étranger peut avoir un rôle important en termes de dénonciation, par exemple? Je pense à Moyan, mais je pense aussi au sang de la Chine.
Je pense que quand on est en Chine, il faut d'abord être modeste par rapport à la fois à la taille, à l'histoire du pays, mais aussi à ce que peuvent faire les étrangers dans ce pays. Je pense que d'abord, il ne faut pas être donneur de leçons. On n'a pas forcément de très bonnes leçons à donner à ce pays. Mais une fois ce postulat présenté, il y a des choses que nous pouvons faire, nous, journalistes étrangers, que les journalistes chinois aimeraient bien pouvoir faire. Et ils nous le disent. Et lorsque j'ai écrit Le sang de la Chine, je l'ai fait à la demande de Chinois. Je l'ai fait parce que des gens qui sont engagés dans la lutte contre le sida, dans la lutte pour la vérité sur ce scandale du commerce du sang dans la province du Henan, souhaitaient que ça se sache, souhaitaient que même si on ne peut pas véritablement porter aide à ces populations, au moins l'affaire ne soit pas étouffée, l'affaire ne soit pas enterrée. Donc oui, on peut faire, dire et faire ce que les Chinois ne peuvent pas dire et faire. Quel impact ça a? Ça dépend des cas. Ça dépend du degré d'embarras ou de que ça peut poser au pouvoir. Ça dépend qui ça met en cause, ça dépend du clan qui est concerné. C'est une complexité très grande, la Chine. Mais c'est vrai que lorsqu'on a publié le journal de Mayan, donc c'est le journal d'une jeune écolière qui ne pouvait plus aller à l'école parce que sa famille n'avait pas d'argent, à ma grande surprise, le livre a été publié un an plus tard en Chine, en chinois, qu'on a eu accès à la télévision à une heure de grande écoute, et que depuis 3 ans que le livre est sorti en Chine, on continue d'en parler, il y a encore des émissions de télévision qui se déroulent, et surtout, un des points soulevés par le livre, c'est-à-dire l'école payante pour les plus pauvres, vient d'être résolu par le gouvernement. Alors qu'il y a 3 ans, quand j'ai écrit le livre, on m'a dit, des amis chinois m'ont dit, mais c'est subversif ce que t'écris. Le droit à l'école, ça n'existe pas. On n'a pas le droit en Chine de réclamer un droit. J'avais dit dans la préface que le texte de Mayan était un manifeste pour le droit à l'école. On m'a dit, c'est subversif. Ben, 3 ans plus tard, le gouvernement vient de décider de la gratuité de l'enseignement pour les 9 années d'enseignement obligatoire pour les 514 districts les plus pauvres de Chine, ce qui représente quand même 14 millions d'enfants. Alors c'est encore une demi-mesure, parce que il y a des tas de pays comme l'Inde qui sont pas plus riches que la Chine, qui ont l'école gratuite pour l'ensemble de cette scolarité obligatoire. Et il y avait une contradiction énorme en Chine à avoir 9 années d'éducation obligatoire, mais pas gratuite. Et donc, dans les familles les plus pauvres, c'était devenu un fardeau, c'était devenu la préoccupation principale. Quand vous discutez avec des paysans qui travaillent dans les villes, par exemple, sur les chantiers ou dans les usines, la seule raison pour laquelle ils font ça, c'est pour pouvoir payer l'école. Alors ce point-là vient d'être résolu. Donc ça montre quand même que des choses bougent, que des messages peuvent passer. Alors le journal de Mayan a été une des pierres qui ont contribué à faire évoluer ce débat. Mais ça a sans doute joué son rôle.
Mais qu'est-ce qui a fait changer le gouvernement en 3 ans?
La réalisation que la corde était trop tendue, que le fossé entre les villes et les campagnes ne cesse de croître, que les paysans prennent conscience qu'ils sont les oubliés du miracle économique, et que à rien changé dans cette politique économique qui avait la croissance économique comme seul objectif, il y avait le risque d'aboutir à une explosion sociale. Et donc la nouvelle équipe qui est arrivée il y a 2 ans a, sans changer de cap, parce que la politique économique reste la même, mais a mis une inflexion sociale, a commencé à lever un petit peu le fardeau fiscal qui pesait sur les paysans. Il faut savoir qu'en Chine, les paysans payent toujours, parce qu'il est en voie de disparition, mais il n'a toujours pas disparu, payent un impôt à la naissance, c'est-à-dire que chaque paysan paye un impôt annuel, alors que dans les villes, c'est en fonction du revenu, avec un seuil minimum. Donc il y avait une injustice incroyable à ce que les paysans, y compris les plus pauvres, payent par le simple fait de respirer un impôt, alors que dans les villes, il fallait avoir un seuil de revenu suffisant pour ça. De même, les paysans ont été victimes de confiscations de terres à une échelle ahurissante. 63 millions de paysans ont perdu leurs terres au cours des dernières années pour les industries, l'expansion des villes, de la spéculation dont ils n'ont évidemment pas été les bénéficiaires, mais ce sont les cadres politiques, les municipalités qui s'en sont mis, mais littéralement plein les poches. Et aujourd'hui, vous avez une émeute par semaine dont on entend parler, et sans doute beaucoup plus dont on n'entend pas parler, liée à ces problèmes de confiscation de terres. 63 millions, c'est-à-dire l'équivalent de la population de la France, qui, en l'espace de quelques années, peut-être une décennie, a été chassée des terres.
Alors qu'est-ce qu'ils font ces paysans? Ils vont où? En ville?
Ils viennent en ville. Vous avez ce qu'on appelle en Chine la population flottante, c'est-à-dire 120, 130 millions de personnes qui sont entre ville et campagne et qui sont la chair à canon, je dirais, de la croissance économique. C'est eux qui sont les ouvriers des chantiers, les ouvriers des usines textiles dont on parle tant, des mines. Ce sont des gens qui sont corvéables à merci, dont le pouvoir de négociation est proche de zéro, et qui acceptent donc les conditions qu'on leur impose, quelles qu'elles soient, parce que d'abord la concurrence est rude pour avoir ces emplois-là, qu'ils en ont un besoin vital parce que soit ils n'ont plus de terre, soit ils en ont besoin pour payer l'école, la santé, tout est devenu payant en Chine. La Chine est théoriquement toujours un pays communiste, mais il faut bien savoir que sur le plan social, on est au-delà de ce que Thatcher pouvait rêver. Donc on a introduit un libéralisme sans peut-être en être totalement conscient. Et on voit bien d'ailleurs que le pouvoir chinois aujourd'hui, constatant les dégâts causés par une partie de cette politique, essaye de corriger le tir. On le voit, il y a un gros débat qui a été lancé sur le système de santé. Le système de santé, on connaît la légende des médecins aux pieds nus qui étaient dans les villages, des gens qui étaient... tout le monde avait accès à un minimum de soins à l'époque maoïste. La santé est devenue payante. Et aujourd'hui, selon le ministère de la Santé lui-même, plus de la moitié des paysans, c'est-à-dire quand même à peu près 400 millions de personnes, n'ont pas accès au système de santé parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Et donc, il y a un verdict très sévère qui est porté là-dessus, sur le fait que les hôpitaux, les dispensaires, les médecins sont devenus des machines à faire de l'argent parce que l'État ne paye plus. Donc, les services hospitaliers doivent se rentabiliser et donc les revenus sont pris sur les prescriptions de médicaments, un rapport récent d'un centre de recherche officiel chinois souligne que dans certains hôpitaux on invente des maladies pour forcer les gens à acheter des médicaments. On met tout l'accent sur les gros équipements lourds, coûteux, genre scanner, etc., plutôt que sur la santé publique de base. Enfin, des choses qu'on connaît dans les excès de la libéralisation des systèmes de santé publique dans nos pays, mais avec malgré tout un filet de sécurité qui reste dans le démantèlement qui a pu être fait de certaines infrastructures sanitaires chez nous, mais qui ici s'accompagne du vide. Et donc quand vous pensez que 400 millions de personnes ne peuvent pas accéder au système de santé, ça fait peur. Et ça fait peur, y compris aux membres du bureau politique du Parti communiste, qui se rendent bien compte qu'il y a là un facteur d'instabilité sociale extraordinaire.
Mais ce qui fait peur aussi, c'est ce que vous racontez à propos du sida, à propos de ce fameux sang contaminé. C'est aussi une question d'argent.
Oui, alors il y a des aspects. Cette histoire du sida, elle, d'une certaine manière, elle concentre tous les aspects de la situation chinoise aujourd'hui. Donc au début des années 90, dans cette province du Henan, qui est dans le centre de la Chine, 100 millions d'habitants, province paysanne pauvre, les autorités lancent un commerce du sang pour faire de l'argent. Donc on se dit à la fois on va aider les paysans parce qu'ils vont pouvoir vendre leur sang, et on va se faire beaucoup d'argent parce que avec le plasma sanguin, on peut faire des produits dérivés, des fortifiants qu'on va vendre dans les villes, qu'on va exporter, etc. Et on met en place un système de collecte du sang sur une grande échelle qui tourne très vite au cauchemar parce qu'aucune précaution n'est prise, et c'est fait dans des conditions ahurissantes. Et donc, au bout de 2 ans, on découvre que le virus du sida a été introduit dans le circuit, ainsi que l'hépatite B. Et donc, on arrête tout, la partie légale, le commerce se poursuit illégalement, souvent pour le plus grand bénéfice d'officiels, notamment d'officiels du système de santé de la province, qui ont créé leurs propres stations, leurs familles ont créé leurs propres stations de collecte de sang dans les villages. Mais là où c'est grave et là où on est dans les réflexes typiques de cette Chine, toujours sous l'emprise du Parti communiste, c'est que on ne dit rien. C'est-à-dire qu'en 1995, on arrête tout, mais on ne dit rien à personne. Et en particulier, on ne le dit pas aux gens qui sont contaminés. Et on ne leur dit pas qu'ils sont contaminés, on ne leur dit pas qu'ils peuvent contaminer d'autres personnes. Donc les femmes accouchent d'enfants séropositifs alors qu'on sait très bien l'empêcher. Les gens continuent à avoir des relations sexuelles. Les travailleurs migrants vont dans les villes et peuvent répandre le virus. Enfin bref, en toute ignorance, les gens continuent à vivre. Et en 1999, les premiers cas de maladie commencent à apparaître. Et c'est là que l'affaire commence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui découvrent l'existence du sida dans cette province et qui commencent à se battre pour le faire savoir. Et ils se heurtent à un mur absolu de gens qui veulent au contraire étouffer complètement l'affaire parce qu'il y a des responsabilités politiques et que de toutes les manières, l'affaire se réglera quand tout le monde sera mort. Et c'est là que la Chine a changé d'une certaine manière. C'est que vous avez des journalistes, vous avez des médecins, vous avez des militants qui ont refusé de se taire, qui ont refusé le diktat des autorités et qui se sont battus. Et ils ont gagné d'une certaine manière, même si la manière dont les gens sont aidés, secourus, il y a déjà eu plusieurs dizaines de milliers de morts, etc. Mais ils ont gagné dans la mesure où on n'a pas réussi à étouffer cette affaire. Elle est connue, y compris en Chine, et elle est même reconnue aujourd'hui. Le gouvernement annonce qu'il aide les victimes. Il le fait dans des conditions qui sont encore assez insupportables. Mais par rapport à la volonté d'étouffer l'affaire, qui était le cas il y a encore quelques années, c'est un progrès énorme. Et le progrès, c'est que ce sont des gens, des Chinois, des citoyens chinois qui se sont battus pour que cette affaire ne soit pas étouffée. Et ça, c'est quand même remarquable.
Et c'est donc eux qui vous ont demandé d'écrire le livre ?
Oui, tout à fait, parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, parce que c'est souvent le cas, et pas seulement en Chine. C'est plus facile de dire des choses dans la bouche d'un étranger que de le faire soi-même. Et y compris au sein du gouvernement, il y a des gens qui ne demandent que ça. La première fois que j'ai écrit sur ce sujet, c'était en mai 2001. Et j'étais parmi les tout premiers journalistes à avoir écrit sur cette histoire. Et donc mon article est sorti en mai 2001. Et peu de temps après, le gouvernement a sorti un bref communiqué pour reconnaître que c'était vrai. Et quelques semaines plus tard, je croise un conseiller du gouvernement chinois que je connaissais, et qui me dit « Ah, j'ai vu votre article de Libération sur le Henan ». Et il l'avait lu en fait dans les traductions internes, c'est-à-dire que le gouvernement se fait traduire tout ce qui sort dans le monde sur la Chine, y compris les choses les plus dérangeantes. et parce qu'il veut être réellement informé. Alors, c'est pas disponible pour le grand public, mais les cadres du régime y ont accès. Alors, j'attendais la suite parce que c'était quand même un reportage que je pensais être dérangeant pour eux. Et il me dit merci. Alors, je dis mais merci de quoi? Et il me dit le fait que ça sorte à l'étranger nous a permis d'aller voir les dirigeants de cette province et de leur dire écoutez, on peut pas continuer à cacher cette histoire, il faut faire quelque chose. Le monde entier est au courant. Et donc, parfois, vous vous dites, il y a des gens à l'intérieur du système qui veulent peut-être faire évoluer les choses et qui se heurtent à des murs. Et le fait que ça sorte à l'étranger, le fait qu'on fasse un peu de bruit, on se fait accuser de tous les noms par certains responsables du pouvoir ici. Mais d'un autre côté, ça en aide d'autres à faire avancer des sujets, des dossiers et parfois des décisions.
Qu'est-ce qui vous touche en Chine ?
Les gens, c'est extraordinaire de voir ici d'abord ce que les gens ont traversé. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un Chinois qui a une histoire banale. Les histoires des familles sont extraordinaires. J'ai des amis qui m'ont emmené chez eux. Quand vous écoutez les parents qui vous racontent la révolution culturelle, et qui voient et qui parlent de leurs enfants qui sont aujourd'hui qui ont étudié aux États-Unis, qui sont venus créer d'entreprises. Enfin, les décalages, c'est des années-lumière qu'il y a entre les générations ici. Et donc les gens ont tous des histoires extraordinaires à raconter. Sans le savoir d'ailleurs, parce que c'est banal d'avoir traversé tous ces drames, tous ces choses heureuses et malheureuses des 50 dernières années. Et de l'autre côté, ce qui que je trouve très attachant ici, malheureusement, c'est justement cette détresse, c'est-à-dire que j'ai été en contact, j'ai eu cette chance d'une certaine manière d'être en contact avec des gens qui sont parmi les plus oubliés de la société chinoise, ces paysans du Ningxia qui sont dans des villages où il y a pas d'eau depuis 20 ans et qui sont vraiment les oubliés de la Chine moderne, ces paysans du Henan à qui on a inoculé le virus du sida et qu'on a abandonné en rase campagne. Vous savez, quand j'y suis allé la première fois et que la première personne que j'ai interviewée, une femme qui était dans un champ avec son enfant, son mari travaillait dans le champ, et à l'époque on ne savait rien sur cette histoire, on avait des rumeurs, donc j'étais allé pour vérifier les rumeurs. Et je demande à cette femme tout doucement, je dis est-ce que vous connaissez des gens qui auraient vendu leur sang dans les années 90 ? Elle me dit oui, moi. Je dis est-ce que vous connaissez des gens qui auraient été malades à la suite de ça ? Et elle me dit je reviens de l'hôpital et on m'a dit que j'avais la fièvre, ça n'avait pas de nom à l'époque. Et son mari arrive et il me dit « Vous pensez que c'est contagieux ?» On était en mai 2001 et on parle du sida. Bon, ça c'est des choses qu'on n'oublie pas.
Ça fait 5 ans maintenant donc, que vous êtes à Pékin. Ça ressemble à quoi vivre à Pékin ?
Ça veut dire d'abord déménager 3 fois en 5 ans parce que les bulldozers sont derrière vous. Parce que la ville change à très vive allure. Je suis arrivé en l'an 2000 au moment où ils ont appuyé sur l'accélérateur pour la rénovation de la ville, la transformation de la ville. Donc voilà, ils ont commencé à raser la vieille ville et à construire des horreurs à la place, à faire des boulevards, donc le tout bagnole, le nombre de voitures a décuplé depuis mon arrivée. Donc il y a la course de vitesse pour construire un maximum de routes, d'autoroutes, et le nombre de voitures augmente de 1000 par jour. Donc donc la course est déjà perdue d'avance. Quand je suis arrivé, on finissait le 4e périphérique. Maintenant, on a fini déjà le 6e et on en prévoit un 7e qui sera le dernier parce qu'après il y a les montagnes, donc on peut plus. Mais la ville s'étend, la ville se modernise, elle devient plus sophistiquée. Alors il y a les bons et les mauvais côtés. Il y a effectivement un cadre de vie pour les gens qui est un peu meilleur parce que il faut pas se faire d'illusions. Les Hutong, la vieille ville de Pékin dont nous occidentaux pleurons la disparition, c'était aussi des conditions de vie terribles pour les gens. Les toilettes étaient dans la rue, l'espace individuel était extrêmement réduit, la promiscuité, l'absence d'hygiène. Donc, lorsqu'on a proposé aux gens des Hutongs d'aller habiter dans des HLM, ils ont sauté sur l'occasion, ils avaient une salle de bain, ils avaient une cuisine, ils avaient l'eau courante, le chauffage. Donc, il ne faut pas non plus idéaliser les Hutongs. Là où la ville a eu tort, je pense, mais il y a eu aussi une spéculation foncière énorme, hein, c'est des opérations comme ce qui s'est passé plutôt à la Défense dans les années 70, hein, vous rénovez un quartier, vous construisez des tours à la place, ben, les promoteurs, machin, la corruption, les mairies, il y a eu un argent phénoménal qui a d'autant plus coulé à flot à Pékin que la ville a été choisie pour les Jeux Olympiques de 2008 et donc devenue priorité nationale. Et donc là où la ville a eu tort, c'est qu'elle a aussi tué son patrimoine, son identité. Et elle a freiné au dernier moment parce que des historiens, des gens, l'UNESCO, les Français ont joué leur rôle aussi sur le patrimoine, ont réussi à convaincre la municipalité qu'il fallait préserver quelque chose, que c'était la richesse de Pékin, que même d'un point de vue de business, il fallait préserver un peu du vieux Pékin. Les gens ne viennent pas à Pékin pour voir Houston ou Atlanta, ils viennent à Pékin pour voir Pékin. Et donc, voilà, la ville a limité la casse au dernier moment, même si 75% de la vieille ville a été détruite. Mais en même temps, il y a dans cette ville une énergie. Vous allez dans le quartier des artistes, vous allez. Vous pouvez. J'ai une amie qui fait un guide de Pékin. Chaque édition, elle est obligée de refaire 75% des adresses parce que, voilà, resto secret, il se détruit, un magasin s'ouvre, il se ferme, ça va à une vitesse, voilà, ça bouge. C'est une ville qui bouge, c'est pour le meilleur et pour le pire.
Alors, votre quartier préféré aujourd'hui à Pékin?
Ben, c'est celui où j'habite, je dois dire. Je suis donc dans un Hutong. Hutong, c'est ces petites ruelles traditionnelles de Pékin, et je suis dans le quartier proche du lac Rohai, au nord de la Cité Interdite, qui est le dernier vestige du vieux Pékin. Et j'avoue que ça, bon, moi je vis dans le confort, j'ai l'eau courante, les toilettes, le chauffage central, donc je veux pas dire que je vis comme mes voisins, ça serait mentir, mais c'est vrai que cette vie traditionnelle pékinoise a un charme incroyable et que tout en le faisant dans mes conditions, je préfère ça à être dans les tours modernes qui ont été construites, qui sont des immeubles de très grand luxe, hein. Maintenant, on a construit des choses ahurissantes à Pékin, mais qui pourraient être n'importe où dans le monde. Là, ici, il reste encore le parfum de Pékin et de toute la littérature qu'on a pu lire, Lao Tseu, Quatre générations sous un même toit. Voilà, c'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai su que je viendrais à Pékin et je me suis dit que je voulais vivre dans les Hutongs.
Et vous avez retrouvé l'ambiance?
J'ai retrouvé l'ambiance parce que même si, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'époque du livre qui est dans les années 30, il reste des choses, mais mes rapports avec les voisins, le côté gouailleur, les attitudes des gens, la manière de parler, il y a un parler pékinois qui est on roule les airs, etc. Il y a des choses qui bougent pas et qui sont immuables.
Ils vous ont bien accepté?
Oui, j'étais assez hésitant au début. Je me disais, bon, le décalage est tel qu'ils vont voir arriver un riche dans le quartier et tout ça. De fait, moi je suis un martien pour eux. Je serais un chinois riche, je pense que ça se passerait peut-être plus mal. Moi je viens d'une autre planète. D'ailleurs, ils comprennent pas pourquoi j'accepte de. Parce que eux, s'ils pouvaient partir, ils partiraient. Ils comprennent pas pourquoi je veux vivre dans une maison qui représente à leurs yeux l'ancien monde, des conditions qui sont pas très bonnes. Mais j'ai jamais eu de problème. J'ai des voisins extrêmement gentils, souriants et qui me traitent avec le respect qu'on donnerait à un martien en visite n'importe où dans le monde.
Pierre Assis, merci. Toujours sur Radio Campus, sur le 106.6 et ses bruits de Chine, nous étions avec Pierre Aski, donc dans son Hutong à Pékin. Pierre Aski a depuis déménagé, il est rentré en France, il est devenu chef du service étranger à Libération. Et quand je l'ai rencontré, il était correspondant de Libération à Pékin. Et il a écrit un ouvrage qu'il a évoqué tout à l'heure dans notre entretien qui s'appelle « Le sang de la Chine » et que je vous recommande absolument pour un petit peu prendre conscience de ce qui se passe là-bas, en tout cas en termes de sida. Et le sida, c'est pas fini. Le quotidien du peuple de cette semaine disait que les cas de sida sont actuellement en hausse. C'est les chiffres du ministère chinois de la Santé et l'OMS. Et officiellement, ce sont donc 70 000 Chinois qui ont été contaminés en 2005. Affaire à suivre donc, car comme le dit Pierre Aski en conclusion de son ouvrage, imagine-t-on à l'été 2008, les Jeux Olympiques, cette fête mondiale du sport et de la solidarité, se déroulaient à Pékin pendant qu'à 800 km de là, l'agonie des paysans du Henan sera à son apogée.